BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. Une heure H coupée en deux. On parlera d'abord de l'apprentissage des régions, du rôle des régions. On parlera du salon de l'agriculture avec Hervé Morin, qui est président de la région Normandie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous, ancien ministre de la Défense, bien sûr. Et puis ancien président de région, vous venez de céder votre siège.
Région de France.
Région de France, absolument. À Renaud Muselier, vous nous direz, est-ce que les régions, comment elles sentent un petit peu le climat politique et social, hein? On voit que c'est difficile en ce moment. Ensuite, je recevrai, on parlera de musique, ça nous change. La musique qui cartonne, notamment grâce au streaming. Olivier Nus, qui est le patron d'Universal Music en France, sera avec nous. Il est surtout président du SNAP, le syndicat de la musique, qui a sorti de bons chiffres ce matin. Pour l'instant, c'est Audrey Maubert qui nous apporte toute l'actualité. Bonjour Audrey.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Le scénario du rebond ne tient pas. L'inquiétude quant à l'impact économique du coronavirus continue de plomber les marchés actions. Les places asiatiques ont terminé en nette baisse ce matin. Le CAC 40 reste dans le rouge, 0,90% de recul à 5737 points. Les compartiments très exposés à la Chine sont encore sanctionnés. Autre illustration ce matin, le groupe français de prêt-à-porter SMCP, Sandro Maje, Claudie Pierlot, a précisé que ses ventes et sa rentabilité en Chine étaient sensiblement impactées par l'épidémie. Le cours chute de plus de 10% à un plus bas historique. Le coronavirus est un game changer dans la mondialisation, a confirmé Bruno Le Maire. Plus de 80 000 cas désormais recensés dans le monde. L'Italie réunit aujourd'hui les ministres de la Santé de pays voisins, dont la France, pour déterminer des lignes d'action communes face à l'épidémie. Le gouvernement britannique a lui à son tour recommandé à tous ses ressortissants ayant séjourné dans le nord de l'Italie de s'isoler s'ils présentent des symptômes grippaux. La Cour des comptes et son rapport annuel traditionnel reproche sur la gestion des finances publiques. Une ambition limitée pour redresser les finances publiques épingle-t-elle. Une évolution préoccupante, souligne la Cour des comptes. Au-delà, il y a cette critique, par exemple, sur les APL, problème d'équité, absence de vision précise. Le rapport critique les mesures engagées par le gouvernement, la baisse de 5 euros, entre autres. Une mesure d'économie, pas de réforme véritable, dénonce en substance la Cour des comptes. Près de 50 milliards d'euros d'excédent budgétaire en 2019 pour l'Allemagne. Un excédent pour la 8e année d'affilée. C'est une confirmation dans un contexte d'appel répété à la relance. Par ailleurs, la chute des exportations a pesé sur le PIB au 4e trimestre. Le PIB a stagné en fin d'année. Natixis vend 29,5% du capital de Coface pour un montant évalué à environ 480 millions d'euros, une décote d'environ 6% par rapport au cours de clôture de Coface hier. Revolut lève de son côté 500 millions d'euros, opération record pour une fintech européenne qui la valorise 5,5 milliards de dollars. La néobanque vise les 20 millions de clients d'ici la fin de l'année et la rentabilité. Enfin, le marché français de la musique poursuit sur sa lancée, une croissance de 5,4% en 2019, quatrième année consécutive selon le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, dont le président Olivier Nus sera votre invité Edwige tout à l'heure. 625 millions d'euros pour les ventes physiques et numériques sur l'année passée. On vient au CAC 40 avec cette chute encore à la mi-journée de près d'1% à 5734 points.
Merci beaucoup. Puis le vinyle qui cartonne, on verra ça, comme quoi le retour. Eh oui, Hervé Morin, vous voyez, c'est ça. Justement, Hervé Morin, notre invité, avec lui, on parlera peut-être pas du vinyle.
Vous avez un appareil qui permet d'écouter le vinyle?
C'est tout à fait, absolument. Tout de suite, on parle des régions, rôle des régions, apprentissage, coronavirus. Surtout, restez avec nous, avec Hervé Morin, le président de la région Normandie.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité Hervé Morin, président de la région Normandie, ex-président des régions de France. Hervé Morin, merci d'être avec nous. Situation un peu compliquée. Vous venez du salon de l'agriculture, il y a eu l'inauguration, on en dira un mot bien sûr, du pavillon de Normandie. Faut dire que c'est important pour vous l'agriculture. Ça représente combien de votre région?
C'est 31 000 exploitations, c'est à peu près 70 000 emplois directs, plus l'industrie agroalimentaire. On estime que c'est au moins 140 à 150 000 emplois. C'est pour nous, bien sûr, un secteur stratégique avec à la fois les grands noms et puis beaucoup de PME. Et puis surtout, ce qu'on constate, c'est cette formidable transformation du monde agricole. Nos compatriotes sont encore... pointe beaucoup les questions du
phytosanitaire. On va y revenir,
parce que...
Mais on va y revenir, parce que c'est très important. Okay, très parce que là, il y a un point, vous avez vu sans doute les marchés qui dégringolent, l'inquiétude autour du coronavirus. Vous, en Normandie, vous avez hérité dans un village de VVF de Français qui revenaient de Chine, hein, mais il y a un cas de suspicion, et justement, je sais que vous passez des coups de fil avant cet entretien, pour savoir si le cas de suspicion au CHU de Caen s'est révélé positif ou négatif. Est-ce que vous avez des nouvelles? Et au-delà de ça, comment vous êtes au Havre, il y a le Havre, il y a beaucoup de ports chez vous, comment est-ce que vous êtes impacté la région de Normandie?
Tout d'abord, pour l'instant, ça n'est qu'une suspicion. Il n'y a pas de, on n'a pas les éléments permettant de savoir si ce cas est avéré ou non. C'est ce que m'indiquait le préfet il y a peu de temps. Quant à la question économique, on voit très bien que la Chine est un grand sous-traitant en quelque sorte de l'industrie européenne. Et par ailleurs, on a une partie de nos produits qui viennent directement de Chine, et l'activité du port du Havre, qui est un grand port sur les conteneurs, est directement impactée par la réduction de l'activité en Chine. J'étais avec les industriels du Havre la semaine dernière, quoi du moins les acteurs portuaires du Havre la semaine dernière. Ils ont eu 3 mois de grève avec les retraites. Moins 50 à moins 70% d'activité, avec des clients qui ont décidé d'aller directement à Anvers et à Rotterdam et qui ne sont pas prêts de revenir sur le Havre.
Il y a une grève en plus actuellement.
Il y a toujours des mouvements de grève récurrents. Et puis deuxième impact pour le port du Havre, le coronavirus. Et ils estimaient que la baisse de l'activité était autour de 50 à 70% liée aussi au coronavirus sur le port du Havre. Donc on voit des conséquences immédiates pour ceux qui sont directement connectés avec les ports asiatiques. Et puis deuxièmement, on a des industriels qui très clairement vous disent la Chine est un fournisseur de pièces sur un certain nombre d'éléments. Je prends par exemple, j'ai une très grosse commande de trains puisqu'on a un réseau ferroviaire complètement pourri en Normandie, donc j'ai décidé d'acheter plus d'un milliard de trains, et j'ai appelé le président de Bombardier il y a 8 jours en disant, dites donc, comment ça va se passer pour nos trains qui sont en train d'arriver. Il m'a dit, si dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, nos sous-traitants ne sont pas fournis en pièces, on va avoir de vraies problématiques pour continuer à produire.
Oui, donc il y a une inquiétude très forte.
Le secteur aéronautique sera...
Oui, automobile.
Enfin bref, tous les secteurs dans lesquels il y a des systèmes de dépendance entre l'Asie et l'Europe.
Est-ce que vous avez le sentiment que la France est bien protégée? Évidemment, il y a des systèmes qui existent. Hein. Mais vous, en tant que président de région, je ne sais pas, est-ce que vous êtes alerté? Est-ce que les écoles ont été alertées ou pas du tout?
Les écoles sont toutes alertées, comme vous le savez. Enfin, normalement, elles ont dû l'être. Écoutez, moi, j'ai assez confiance dans la capacité d'un gouvernement dans un cas comme celui-ci de bâtir et de réaction. On a eu le cas, nous aussi, avec une grippe quand j'étais au gouvernement.
Le SRAS, oui.
Et j'ai en souvenir à quel point on avait mobilisé l'ensemble des acteurs. Le ministère de la Défense avait même été concerné pour la production de médicaments. Quelles que soient les difficultés du système sanitaire français, qui sont réelles, et notamment nos hôpitaux, mon sentiment, c'est qu'on a un réseau de santé suffisamment bien informé et bien bâti pour être en capacité de réagir. Jusqu'à la preuve du contraire, mais si le gouvernement a fait les choses, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas en capacité de
Ok, donc plutôt confiant le cœur. Ouais, alors, salon de l'agriculture, on y revient à l'agriculture. Il faut dire que c'est quand même une région agricole. La Normandie, vous avez rappelé le nombre d'exploitations, d'emplois que ça suscite. Il y a 67 000 emplois directs. Puis derrière, évidemment, il y a toute la transformation.
Et toute l'industrie agroalimentaire.
Il y a 31 365 exploitations. Vous voyez, si j'ai bien
révisé les
chiffres.
Heureusement que je vous ai dit 30 000. Parce que
c'est même un petit peu plus. Il y a beaucoup de questions sur la politique agricole commune avec la difficulté de la renégocier au niveau européen. Il y a aussi toutes les questions de savoir si autour du lait, est-ce qu'il faut des appellations. Est-ce que l'agriculture française, de vous, ce que vous voyez en l'agriculture normande, est inquiète aujourd'hui ou pas? Est-ce que l'agribashing, elle en souffre? Comment?
Oui, tout d'abord.
On a besoin de témoignages en direct.
Premier point, beaucoup de nos paysans vivent très mal, avec des niveaux de revenus que peu de compatriotes accepteraient d'avoir.
Même en Normandie?
Bien sûr. Quand on est dans l'élevage, on souffre terriblement. Et donc, le revenu médian se situe autour de 400 à 450 euros par mois. Vous voyez ça. Donc on a, une agriculture qui souffre, au moins une partie. Alors nous, on a quelques poches qui vont très bien, la pomme de terre, le lin, etc. Bon. Deuxième facteur évident, deuxième élément majeur sur l'agriculture, c'est qu'aujourd'hui, le monde agricole a vécu l'environnement comme une contrainte et le monde agricole est en train d'intégrer l'idée que l'environnement peut être un facteur de valeur ajoutée. Mmh. En clair, bâtir un système de confiance qui permet aux consommateurs de produire de la valeur ajoutée. En clair, on voit très bien ce qui est en train de se passer en Normandie. Je vous donne des exemples simples. 1000 agriculteurs qui aujourd'hui sont en train de passer au bio. Il y en avait 1800, donc on est quasiment sur un doublement du nombre d'agriculteurs qui passent au bio. 4500 exploitations agricoles qui sont sur la vente directe. 5000 exploitants qui ont bâti ce qu'on appelle des mesures agri-environnementales et climatiques et qui ont donc transformé leur modèle d'exploitation pour être plus autonome, pour construire un modèle plus respectueux de l'environnement. Et donc, derrière tout ça, il y a la recherche de niches, de création de valeur, de garanties pour les consommateurs, et donc tout ce qui est traçabilité, label rouge. Oui. Par exemple, la viande normande, nous sommes en train de nous inscrire dans cette démarche-là. Nous le faisons à travers de nouveaux signes de qualité donnés par l'INAO. Prenez l'exemple, quand vous mangez du bulot, eh bien le bulot vient de Granville, eh bien on vient d'obtenir une référence de l'INAO sur le bulot de Granville. Et donc on a un monde agricole et un monde de la pêche d'ailleurs, les deux confondus, qui ont totalement intégré l'environnement comme la capacité probablement d'avoir plus de valeur ajoutée plutôt que l'industriel. L'agriculture, en clair, il y a 20 ans, on lui demandait de produire beaucoup pour l'industrie. Et le consommateur s'était assez éloigné. Aujourd'hui, il faut à la fois fournir l'industrie, mais aussi s'adresser aux consommateurs. C'est ça la révolution.
Juste un point, j'ai pas que... L'AOC pour le camembert avec du lait qui vient de Normandie, vous l'avez obtenu ou pas ?
Écoutez, c'était pour nous, c'est 10 ans de guerre.
Ouais. C'est une longue bataille, la bouteille des camemberts,
le deuxième fromage.
C'est l'orage, c'est l'heure du déjeuner. Donc.
Le deuxième fromage le plus connu après le comté, ouais. Le plus consommé après le comté. Et il y avait là un accord assez exceptionnel qui permettait de tirer le camembert et la totalité de la filière camembert vers le haut. En réalité, on a deux industriels qui s'appellent Lactalis qui s'appellent Savincia et qui veulent conserver leurs techniques qui sont incompatibles avec cette AOP. Donc il y a ce conflit-là dont j'espère qu'on va arriver à sortir.
Donc il n'est toujours pas résolu. Je pensais que c'était une décision imminente. Hein. C'est pour ça que j'ai demandé.
J'étais très malheureux avant d'aller au salon de l'agriculture parce que je me disais c'est foutu. Cet accord qu'on avait tiré à bras de tous ensemble. Et puis hier, trouver des professionnels qui me disaient on va y arriver. Bon, espérons-le.
On va arriver à un accord, c'est important pour notre camembert.
Ouais, puis derrière tout ça, il y a la normandisation des troupeaux, il y a l'obligation de nourrir les vaches à l'herbe, il y a des niveaux de densité de vaches à l'hectare, et donc derrière, il y a la capacité de protéger nos paysages, garantie sur l'absence de consommation d'OGM. Donc tout ça allait vraiment dans le bon sens.
Hervé Morin, vous êtes décidément en première ligne, parce qu'il y a aussi la question des pêcheurs, parce que la question des laits des vaches normandes, bien sûr, mais aussi la question des pêcheurs, parce que vous avez l'essentiel de votre région et
620
km de côte, c'est face notamment à la Grande-Bretagne. Donc la question du Brexit est très importante. Et on sait qu'il y a l'enjeu des pêcheurs. Je recevais le patron des pêcheurs là, il y a quelques jours. On voit que c'est un enjeu très très important, puis un objet de chantage de la part des Britanniques et de Boris Johnson. Où est-ce que vous en êtes ? Qu'est-ce que vous redoutez ? Est-ce qu'on peut pêcher ? Est-ce que vos pêcheurs peuvent aller pêcher en ce moment même dans les eaux de Guernesey ? C'était interdit. Hein,
Moi j'ai eu, comme vous le savez, les îles anglo-normandes. Ouais. Ne sont pas dans le Royaume-Uni, mais sont rattachés à l'Union Européenne par un accord particulier. Peu importe.
Mais enfin,
bien, je vous raconte.
Ouais.
Et donc, j'ai eu le Premier ministre de Guernesey la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je lui ai dit, il y a deux façons de voir les choses, puisqu'au premier, tout d'un coup, ils nous ont dit, sorti Brexit, l'accord ne tient plus, etc. Je dis, il y a deux façons de voir les choses. Soit on alimente la guerre entre les pêcheurs britanniques ou anglo-normands et les pêcheurs normands et français, et on va vers un système absolument conflictuel. Et nous, on a une rétorsion évidente, c'est l'interdiction de la débarque du poisson pêché par les pêcheurs britanniques, parce que votre poisson, il faut bien qu'il atteigne le marché européen. Soit on considère que jusqu'au 31 décembre, il y a une discussion entre les nations et entre l'Union européenne, la France et le Royaume-Uni, et on fait tout pour apaiser les choses. Et j'ai dit, le modèle idéal, c'est que vous accordiez des licences aux pêcheurs. On ne change rien, on ne touche à rien dans un premier temps. Et puis, on verra bien ce que donnent les discussions européennes sur ce sujet-là. Mais ce qui est clair, j'étais à Bruxelles il y a 8 jours, j'ai vu le commissaire à la pêche, j'ai dit, c'est très simple, hein, Là-dessus, les pêcheurs ne doivent pas être les cocus de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Non, mais je crois qu'il y a une volonté, en tous les cas.
Ouais, je me méfie, parce que souvent, les pêcheurs ont été abandonnés. Et donc, ce que je dis, c'est que, très clairement, l'Union européenne ne doit pas sacrifier ses pêcheurs au profit du reste de l'accord.
Notamment, c'est les pêcheurs contre les traders. C'était un peu un slogan qu'on voyait. Ouais.
Et en clair, deuxième point, si les Britanniques persistent dans l'idée que nos pêcheurs ne puissent plus aller dans les eaux territoriales britanniques, eh bien, il y aura une rétorsion immédiate et évidente qui est de dire le poisson britannique, vous le garderez chez vous.
Oui, parce que les deux tiers quand même des poissons britanniques, entre guillemets, c'est difficile à les suivre, les bancs de poissons. Parce qu'eux, ils
connaissent
pas la
frontière. Non, les bancs de poissons, d'accord, mais il y a les zones de pêche, quoi.
Oui, il y a les zones de pêche, oui, mais parce que nous expliquait, maintenant je suis devenu très calé sur la pêche, c'est-à-dire que ça circule. Mais il y a quand même deux tiers des poissons britanniques, entre guillemets, qui sont vendus au sein de l'Union. Oui, sur le marché européen. Donc il y a aussi. Donc,
derrière,
gros enjeu pour vous.
Derrière, il faut quand même avoir en tête qu'il y a aussi des industries qui ont besoin de matières premières. Hein, donc tout ça.
Tiens, justement, à propos de matières premières, après on passera à la réforme des retraites parce que c'est un point important. Hervé Morin, on dit que vous êtes favorable à la construction d'EPR, j'en veux dire, malgré Flamanville, avec toutes les difficultés que ça a. Et c'est vrai que vous êtes favorable à la construction de nouveaux EPR nucléaires chez vous ?
Il n'y a pas d'équation décarbonée en France sans le nucléaire aujourd'hui.
Quelqu'un me disait, mais il est maso.
Mais pas du tout. Moi, je suis à la fois la région des énergies marines renouvelables. La région porte, abandonnée par l'État il y a 18 mois, nous avons repris avec une société écossaise la question de l'hydrolien, c'est-à-dire de profiter des courants marins. C'est une société que nous avons créée entre la région Normandie et une société qui s'appelle Atlantis, qui est une société écossaise. Et on est en train d'aboutir et de permettre, je l'espère avant la fin de l'année, le début de la construction des premières hydroliennes pour faire les essais. Nous serons la grande région des énergies marines renouvelables et on vient de créer un campus d'excellence internationale sur ces métiers-là puisque c'est 10 à 12 000 emplois à venir. Mais si je veux être responsable et dire que le réchauffement climatique c'est une priorité, je dis aussi qu'on a besoin de nucléaire. Quand on ferme Fessenheim, on prend une décision qui est contraire à l'intérêt, au défi que représente le réchauffement climatique. Et donc, il y a un espace dédié à cela qui s'appelle Penly. Il y a un consensus politique que nous avons bâti.
Projet de PR de Penly.
Toutes les formations politiques, à l'exception bien sûr d'Europe Écologie Les Verts, ont indiqué être favorables. C'est un élément important pour la décision. Et je sais, par les conversations que je peux avoir avec Jean-Bernard Halléville, PDG d'EDF, que c'est le meilleur site pour bâtir le second EPR quand le premier sera en service, je l'espère, dans un an et demi ou deux ans.
Ah oui, d'accord, vous êtes très optimiste.
Non, je ne suis pas très optimiste.
Non, mais c'est vrai qu'on...
Je dis simplement, il faut dire les choses aux Français. On peut dire qu'on est opposé au nucléaire, etc., par posture, et puis dire que la première...
Il faut dire qu'il y a un enjeu très important aussi pour la région de Normandie, avec Cherbourg, bien sûr.
Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que on a toute cette période de transition où le nucléaire est absolument indispensable. Tous les climatologues sérieux tiennent ce discours. Et après, il y a la posture politicienne, ça c'est un autre débat.
Oui. Alors maintenant, on voit bien dans les régions, quand on dirige une région, vous, Xavier Bertrand aussi, dans les Hauts-de-France, ça bouge, il se passe des choses sur le plan économique. L'apprentissage, la dernière fois que vous êtes venu nous voir, je m'en souviens, on a un peu lancé cette espèce de bras de fer entre les régions et Muriel Pénicaud, parce que je vous avais interrogé en disant, Muriel Pénicaud dit bravo, c'est ma réforme qui marche sur l'apprentissage. Vous m'avez expliquer, pour l'instant c'était évidemment
raconter
des bobards, et puis surtout pour l'instant c'est nous qui gérons parce que la réforme de Muriel Pénicaud, elle entre en vigueur qu'au 1er janvier 2020. Vous avez écrit une tribune où vous parliez d'une réforme bricolée, une tribune très agressive il y a quelques jours vis-à-vis de Muriel Pénicaud. Cela dit, l'apprentissage, j'ai envie de dire, c'est le résultat qui compte, sinon ça marche.
Ça marche tellement bien. J'ai 20% d'apprentis en plus en Normandie parce que avec David Marguerite, qui est le vice-président en charge de ces questions à la région, on a fait un Grenelle de l'apprentissage au début. Ça a été une de nos premières décisions. 6 mois, on a mis tous les acteurs économiques, les acteurs de la formation. On a bâti un vrai plan avec 20-25 mesures. 3 ans plus tard, plus 20%. alors que ça faisait 10 ans que la région Normandie connaissait chaque année une baisse du nombre d'apprentis. Donc ça marche. Mais faut pas
qu'est-ce que vous reprochez à la réforme parce que les entreprises, que vous qui connaissez bien les entreprises,
d'une part la récupération honteuse de Muriel Pénicaud qui vous explique que si l'apprentissage augmente aujourd'hui en France, c'est grâce à elle. Pardon, il n'y a pas une bribe de compétence de l'État jusqu'au 1er janvier 2020 sur ce sujet. Quand moi j'ouvre un centre de formation pour apprentis à Vire sur la maintenance industrielle, à la demande du secteur économique virois, c'est pas l'État, c'est la région Normandie et c'est personne d'autre, avec l'UEMM en l'occurrence. Bien. Quand, par ailleurs, elle nous...
Mais donc il faut les deux. Je veux dire, il faut... Peut-être qu'il n'y avait que les régions et maintenant il y a les régions et les entreprises.
Mais les entreprises, ça a toujours été le cas. Les cartes de formation que nous les bâtissions avec les branches professionnelles. Et je dis...
Bah, c'est pas toujours le cas. Enfin bon, lorsqu'on écoute le MEDEF, hein, tous les gars. Enfin, par exemple.
Enfin, le MEDEF maintenant qui est...
Ou la CPME.
Non, attendez. Le même MEDEF qui aujourd'hui, ou l'UEMM qui a pourtant été grand défenseur de la réforme de Mme Pénicaud, qui aujourd'hui vient pleurer devant les régions pour nous dire il va falloir que vous nous donniez un coup de main parce que nos centres vont fermer. Donc, le double discours, en la matière, on peut connaître. Ce que je sais, c'est que à Vire, pour prendre toujours ce même exemple, où j'ai bâti ce centre de formation, comme c'est un petit bassin industriel, même s'il est extrêmement dynamique, j'ai des petits effectifs. Et que la réforme de Mme Pénicaud fait que ce centre de formation sera déficitaire et qu'il n'aurait jamais vu le jour dans un modèle qui est désormais un modèle lié à l'économie de marché. Quand, je prends un deuxième exemple très intéressant, nous avons le centre de recherche mondial de Faurecia, à Flers, avec 1100 salariés. Faurecia qui, comme vous le savez, un des grands équipementiers automobiles. Ouais. Bassin économique très tourné autour de cela. On me demande une école d'ingénieurs. Je fais venir une école d'ingénieurs de Caen. Sauf que le directeur de l'école d'ingénieurs me dit « Monsieur Morin, mes formations à 8000 euros à Caen, ça marche, donc je peux la faire, parce que c'est le tarif national désormais. Sauf que quand je suis à Flers, ça me coûte plus cher, ça me coûte 12 000. Donc, deux solutions. Soit je ferme, soit vous me filez les 4 000 euros par élève. C'est-à-dire 200 000 euros. Qu'est-ce que je fais? Je vais les donner, les 200 000 euros, parce que sinon, mon bassin industriel, il s'effondre. Il s'effondre. Parce que la matière grise, c'est là le premier facteur d'attractivité dans un pays aujourd'hui. C'est pas les équipements en dur. Ça est aussi les équipements en dur. Mais c'est surtout la matière grise et l'intelligence. Et donc, je les maintiens. Ce genre de choses n'aurait pas été possible quand j'ouvre un centre de formation sur le bâtiment à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans un quartier prioritaire de la ville.
Il y a Fauchon aussi qui va ouvrir.
Fauchon, ça, c'est là, ça s'ouvre. C'est une initiative complètement privée que j'ai aidée. Mais c'est un autre sujet. Mais
donc ça marche.
Ça marche.
D'accord.
Et est-ce que ça marchera moins bien avec la réforme? À Paris, sa réforme. Mais, ça marchera dans les grandes villes, mais dans les zones où il y a une démographie faible, des bassins économiques faibles, ça marchera pas.
Bon, d'accord. Ok. Donc,
Et comme vous le savez, on est dans un pays où déjà les zones rurales ont un sentiment profond d'abandon. Ouais. Et bien là, on va encore donner un argument de plus à celles et ceux qui disent qu'on abandonne une partie du pays.
Encore une petite question qui concerne les territoires, mais c'est à présent, c'est très important. Hein. Donc, je recevais Jean-Baptiste Djebbari, qui est le ministre en charge des transports, c'était hier matin. Il est très focalisé sur ces petites lignes ferroviaires qui dit c'est ce qui va redonner un petit peu du maillage au territoire français. Est-ce que vous dites bravo, j'applaudis, c'était une très très bonne idée?
Mais les petites lignes ferroviaires, la question...
Qui ont été abandonnées?
Oui, enfin, la France a abandonné ses trains intercités et les petites lignes. Tout. Oui. Moi, j'ai un système qui marche plus du tout.
Oui, en Normandie,
Les locomotives ont 52 ans. Pour vous donner une idée, elles démarrent plus là. Matin, quand le conducteur arrive et qu'il met la clé, ça tombe, n'avance plus. Bien. Voilà la situation. Bon. La question, c'est que les régions sont incapables de financer seules la restauration de ces milliers de kilomètres de petites lignes.
Mais vous êtes prêt à signer, justement, parce qu'il y a la Grand Est qui a signé. Vous êtes prêt à signer le...
Je prends un exemple. J'ai déjà repris les lignes intercités.
Oui.
Parce que ça marche plus du tout et que l'État n'avait aucun projet là-dessus. Alors, ça marche toujours pas, mais j'espère que dans 2 ou 3 mois, quand les trains neufs vont arriver, ça se met à marcher. On a mis 2 milliards. Je suis pas en capacité de mettre encore des centaines de millions d'euros. Donc soit c'est un effort partagé avec l'État.
Oui, c'est ça le contrat.
Sinon ça n'ira pas.
Ouais. Un mot, un dernier mot, Hervé Morin, sur la réforme des retraites. Vous qui avez été ministre, parlementaire, etc., etc. Comment on s'en sort? On fait un référendum? On fait un 49-3?
Bah, le référendum, le référendum, M. Macron pourrait déjà signer déjà le résultat. On connaît. Bon, écoutez, je pense que les Français ont compris que c'était une réforme pour rien.
Une réforme au contraire qui change tout, non?
Non, tout. C'est un régime universel avec des régimes spécifiques. Et c'est un régime universel en plus avec des éléments assez scandaleux. Je vais vous en citer un puisqu'on est sur BFM Business. En vertu de quoi nos compatriotes qui gagnent plus de 120 000 euros par an ne participent plus au régime par répartition et sont désormais invités à faire de la capitalisation tout en étant taxés à 275%.
Oui, parce que ça n'ouvre plus des droits à la retraite, c'est ça qui est...
Expliquez-moi quelle est l'idée de faire en sorte que les 300 000 plus hauts revenus français ne participent plus à un régime dont qu'on veut consolider et qui repose sur l'idée de solidarité entre les générations. Ben, rien que cet exemple-là démontre à quel point cette réforme n'a pas été construite. Je pourrais citer des exemples aussi sur les retraites des femmes, contrairement à ce qu'on raconte. Et puis en plus, nos compatriotes ont bien compris que c'est un système de shadow, quoi. On pompe pour alimenter autre chose. C'est-à-dire que à la fois, on augmente les cotisations des uns, et on augmente les revenus pour permettre aux gens de payer les cotisations. Et donc, au bout du compte, nos compatriotes ont intégré une chose, c'est qu'il n'y a ni équilibre des régimes de retraite à moyen terme avec cette réforme, ni justice.
Toute dernière question qui n'a rien à voir, je m'adresse plutôt à l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin. Est-ce que vous avez écouté, lu le discours assez novateur, en rupture, d'Emmanuel Macron, justement devant l'école de guerre, où il préconisait une défense nucléaire française au service de l'Union européenne?
C'est absolument pas novateur, Edwige Chevrillon.
Ah bon, parce que je ne sais pas, en tout cas, ça a été vécu comme tel. Ouais, les Allemands ont dit peut-être, pourquoi pas, donc allez-y.
Reprenez le discours de Jacques Chirac et le discours de Nicolas Sarkozy. J'ai plus en tête le discours de François Hollande, mais j'imagine que dans d'autres mots, il a dit exactement la même chose. C'est toute la question.
La défense nucléaire française au service des pays de l'Union européenne. Donc, si on attaque un pays européen, pourra appuyer sur le bouton.
La question de la notion d'intérêt vital est une question qui a été posée depuis belle lurette par les chefs d'État et les chefs d'État, puisque c'est une histoire qui relève du président de la République. Et je pense que c'est depuis Jacques Chirac. Au moins, ça, je suis sûr de Nicolas Sarkozy, parce que j'ai encore en tête son discours à Cherbourg sur la question.
D'accord, ok, ben voilà, comme ça, c'est dit. Merci beaucoup, Hervé Morin. Merci. Quelle est la musique que vous écoutez le plus ?
J'écoute la variété, la pop, le classique, j'écoute toutes les musiques, j'ai ma playlist et voilà.
Et vous en saurez encore un petit peu plus, puisque dans un instant, j'en reçois Olivier Nuss, le président du syndicat justement de la musique, patron d'Universal Music France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve, nous, tout de suite, surtout restez sur BFM Business.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Ça cartonne, c'est la grande révolution, vous le savez, de la musique grâce au streaming. Olivier Nuss, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron du SNEP, alors le syndicat national, bref, le syndicat de la musique, et puis le patron d'Universal Music pour la France. Très bon chiffre que vous avez publié ce matin, avec évidemment quelques différences ici ou là, on verra ça. Mais pour l'instant, rappel des titres avec Audrey Maubert et dommage, je n'ai pas en musique.
Pas de rebond espéré, pas le rebond espéré du moins. L'inquiétude quant à l'impact économique du coronavirus continue de plomber les marchés actions. On l'a vu sur les places asiatiques ce matin. Le CAC 40 reste dans le rouge, moins 0,73% à 5749 points. Les compartiments très exposés à la Chine sont encore sanctionnés, notamment du côté des matières premières. Plus de 80 000 cas désormais recensés dans le monde. Une situation très grave, reconnaît Séoul, où le nombre de cas a bondi. En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a reconnu un dysfonctionnement. Les ministres de la Santé européens, notamment français, sont attendus cet après-midi à Rome. Le redressement des finances publiques est aujourd'hui quasiment à l'arrêt, juge la Cour des comptes dans son rapport annuel. Elle appelle une fois de plus à ne plus retarder les efforts pour assainir les finances de l'État. Outre cet appel traditionnel, la Cour des comptes étrille l'école polytechnique. Une situation financière préoccupante et des insuffisances dans sa gestion. En particulier, dit-elle, une tutelle lointaine du ministère des Armées. C'était attendu, les 27 adoptent le mandat de négociation avec Londres. Le Royaume-Uni doit entamer des négociations avec Bruxelles le mois prochain pour parvenir à un accord commercial avant le 31 décembre prochain. La première commande pour Boeing depuis le début de l'année, la compagnie aérienne japonaise ANA va acheter 15 787 Dreamliner supplémentaires pour 5 milliards de dollars. Renault lance son offre d'autopartage, le service Zity, dès le mois prochain à Paris en partenariat avec le groupe espagnol Ferrovial. 500 véhicules électriques déployés en remplacement de l'offre actuelle Move-in, qui c'était en collaboration avec le loueur ADA. Expedia supprime 3000 emplois, 12% de ses effectifs mondiaux environ. Une année 2019 décevante, a reconnu le voyagiste américain. Après un bénéfice net en baisse au dernier trimestre, Expedia vise 300 à 500 millions de dollars. Et puis, le marché français de la musique poursuit sur sa lancée, une croissance de 5,4% en 2019, aidée par le streaming, quatrième année consécutive de croissance, selon le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, dont le président Olivier Nus est votre invité, Edwige.
Merci beaucoup, Audrey. Vous l'avez dit, on parle de musique. Et puis, bon, ça fait plutôt du bien. La musique se porte bien, notamment le vinyle. Ça, on le savait, mais pour combien de temps, Léa, tout de suite?
Tout savoir sur la fin des tarifs réglementés de l'énergie avec Eni. Fin 2020, les tarifs réglementés de l'énergie disparaîtront pour la plupart des entreprises et collectivités. Julien Bétinger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur commercial chez Eni. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Bien sûr. La plupart des entreprises sont concernées par la fin des tarifs réglementés et ont tout intérêt à s'intéresser aux offres de marché.
Mais pourquoi? Quel est l'intérêt de ces offres de marché?
La possibilité de faire le bon choix en fonction de votre besoin. On n'a pas attendu la fin des tarifs réglementés pour proposer des offres adaptées. Chez Eni, par exemple, le prix du kilowattheure hors taxe n'augmente pas pendant 4 ans, ce qui permet une meilleure maîtrise de votre budget d'énergie.
Et chez Eni, j'imagine, vous avez d'autres offres et d'autres services?
Évidemment. Eni propose de l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou des offres avec de l'énergie verte.
Très bien. Et si on veut en savoir plus?
Eh bien, nos conseillers vous attendent au 32 94 ou rendez-vous sur fr.eni.com.
L'énergie est notre avenir, économisons-la. 3294, service gratuit, plus prix d'un appel national selon tarification de votre opérateur.
Demain, en exclu sur RMC Sport, 8e de finale de l'UEFA Champions League avec Lyon Juventus.
Et si on le faisait? Hein? Et si on les battait? Et si on s'offrait une chance pour les quarts?
Lyon Juventus, demain à 21h, en exclu sur RMC Sport. Et si Lyon crée la surprise?
Et si on regardait le match chez moi?
Abonnez-vous à 9€ par mois avec la fibre de SFR ou 19€ par mois. Appelez le 1055, service et appel gratuit. RMC Sport, c'est la passion qui parle.
Offre soumise à condition jusqu'au 14 avril avec engagement de 12 mois. Fibre de SFR sous réserve d'éligibilité.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Il est le patron d'Universal Musique en France, mais il vient en tant que président du SNEP. Le SNEP, c'est le syndicat national de l'édition phonographique. Olivier Nus, merci encore d'être avec nous. Merci. Bonjour. Mot phonographique, il faut expliquer ce que ça veut dire presque aujourd'hui, parce que les gens ne s'en souviennent plus.
Oui, je suis d'accord, mais on parle de la musique enregistrée, si c'est plus simple.
Oui, surtout lorsqu'on voit les streamings, tout ça. Vous me direz, avec le retour en force, on va en dire un mot, bien sûr, notamment du vinyle. Peut-être le mot phonographique va rester à la mode. Dans tous les cas, vous avez publié vos chiffres ce matin, on voit que le marché de la musique se porte très bien. C'est un revival assez incroyable à cause du streaming ou grâce au streaming. Expliquez-nous d'abord les chiffres grosso modo, les grosses masses.
En gros, ça fait, c'est très encourageant effectivement, parce que ça fait 4 ans maintenant que le marché repart à la croissance, hein, et on avait pourtant beaucoup souffert depuis début 2002, qui était l'année la plus forte. Donc ça repart, et exclusivement quasiment par ce marché du streaming et du streaming payant, hein, des abonnements qui...
En plus, oui.
Continue de progresser, c'est encore pris 23% en France l'année dernière. Donc ça c'est très encourageant. Il y a un peu plus de 7 millions de personnes qui sont abonnées à des services payants de streaming. Et puis il y a des comptes famille aussi, donc c'est même plus que ça, c'est 9 millions 5 presque d'utilisateurs payants. Il y a encore de la place, hein, parce que 9 millions c'est bien, mais c'est un peu plus de 10% de taux de pénétration en France. On peut aller plus loin. Donc c'est très encourageant.
D'accord. Alors marché de la musique d'abord enregistré, on va dire c'est 772 millions, presque 773 millions d'euros, plus 5,4%. Donc
c'est ça. C'était un peu plus de 1% en 2018. Donc ça progresse. Mais ça reste assez diesel, et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on avait tellement perdu depuis le début des années 2000 qu'aujourd'hui, on est arrivé à peu près au niveau de 2010. 2010, ouais. Et on est encore qu'à 44% de ce qu'était le marché à son pic en 2002. Donc il y a encore de la marge, mais ça repart à la croissance, tant mieux.
Oui, mais parce que vous avez eu un trou d'air. C'est-à-dire que vraiment, il a fallu complètement... C'est rare de voir une industrie qui a dû revoir complètement son modèle économique.
Une industrie qui perd 60% de sa valeur, c'est quand même fou.
Ouais.
Mais voilà, on a trouvé un modèle vertueux, en tout cas, qui nous permet de repartir à la croissance, surtout de permettre aux artistes d'en vivre et de continuer à créer.
Alors, lorsqu'on regarde un peu le revenu numérique, ça c'est facile à comprendre, c'est le streaming... le revenu est physique. Alors, ce physique, c'est les CD, c'est le vinyle. Là, vous pouvez rentrer un petit peu dans le détail, parce que c'est intéressant de voir que, notamment les fameux vinyles.
Bien sûr. Alors, le marché physique se porte encore plutôt bien en France, plus que dans d'autres territoires, ouais. Comme l'Allemagne ou ailleurs. Parce qu'on a d'abord un réseau de distribution, on a cette chance de plus de 4000 points de vente entre les hypermarchés et les spécialistes. Donc, ça, c'est formidable. Plus le e-commerce qui continue de croître. Et donc, on vend toujours, parce qu'il n'y a pas des gens qui achètent du CD ou du vinyle et des gens qui stream. Ça se croise, il y a des gens qui écoutent la musique en streaming, qui ont envie aussi d'avoir un support, et notamment du vinyle, parce que c'est un très bel objet d'abord, et aussi parce que la qualité d'écoute est différente. D'ailleurs, les platines vinyle
n'arrêtent pas de partir à la croissance,
on en vend des dizaines de milliers. Donc ça, c'est formidable. Et surtout, ça touche toutes les générations, pas que les nostalgiques des années 80, 70, 60, mais aussi toute une jeune génération des moins de 25 ans qui achètent du vinyle sur la nouveauté comme sur les patrimoines. Une artiste comme Angèle qui a dominé le marché des ventes l'année dernière, pourtant c'était un premier album, a vendu plus de 50 000 vinyles, donc ça montre bien, et pourtant c'est un public relativement jeune, ça montre bien que ce support séduit aussi la jeune génération.
Oui, mais il y a aussi, alors, juste une petite parenthèse, parce que même si j'ai un peu plus de 25 ans, malheureusement, enfin, j'écoutais bien les vinyles, il y a un problème de qualité de son. Si vous voulez, la qualité de son est meilleure sur les vinyles, souvent,
C'est subjectif, mais oui, c'est plus chaud, et puis l'usage, puis c'est agréable, on a l'impression de vraiment participer à l'écoute, ça séduit, ça plaît, et tant mieux. Aujourd'hui, le marché du vinyle représente 1/5 du marché physique en France. Donc, c'est vraiment, ça a pris une part énorme depuis 3-4 ans.
Oui, c'est même assez spectaculaire, je trouve. Alors, le streaming. La grande nouveauté, c'est que, dans le streaming, ça, c'est ce qui a permis donc la résurrection de la musique. Mais, comme vous l'avez souligné, Olivier Nus, c'est que là, les abonnements sont très, très grosse part de marché. Donc, c'est plus de 9 400 000, je crois.
D'utilisateurs, payants. Exactement. En streaming payant, donc c'est une grosse part, mais il y a encore de la marge. C'est un usage qui se démocratise, mais il y a encore plein de gens dans différentes générations qui sont pas encore abonnés et qui pourraient l'être. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'être très, en tout cas, optimiste sur l'évolution de ce marché et de sa capacité à faire repartir cette industrie et donc tous ces artistes qui en vivent à la croissance pour les années à venir. Donc oui, le streaming permet au marché de repartir. C'est le streaming payant en grande partie, c'est pas streaming gratuit financé par la publicité, c'est 80% des recettes du streaming, c'est le streaming payant. Donc c'est vraiment ça qui permet au marché de repartir.
Et quelles offres ?
Ah ben, il y en a plein. Donc
non, mais je sais bien qu'il y en a plein, justement. Non, mais je me demandais, est-ce que c'est justement les offres Super Plus ? Est-ce que, justement, quelles sont les offres qui marchent le mieux ?
C'est sensiblement... La grande majorité des offres, c'est les offres qu'on appelle les offres premium. C'est sensiblement les mêmes sur les acteurs que sont Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon qui arrivent et d'autres. Il y a des abonnements qui sont un peu adaptés, des abonnements étudiants qui sont dont le prix est moins cher, ou des abonnements famille où on peut être à plusieurs sur le même compte. Mais sinon, sensiblement, c'est une offre assez standard.
Ouais. Quelles sont les plateformes, parce qu'on voit bien que ça évolue, il y a une concurrence de plus en plus féroce, quelles sont les plateformes qui cartonnent le plus, enfin, où l'offre est la plus intéressante, où ça évolue?
Mais en fait, c'est la vraie particularité du marché du streaming audio, c'est que chaque plateforme a l'ensemble du catalogue mondial, d'accord, 45, 50, 55 millions de titres. Ce qui n'est pas le cas sur les plateformes audiovisuelles, comme vous le savez, Netflix a son offre, comme Disney Plus aura son offre, etc. Dans le marché de la musique, tout le monde a la même chose. Donc après, c'est la contenance qu'a un utilisateur sur la prescription qui est faite par la plateforme, son interface, etc. Il y en a qui préfèrent Deezer, d'autres Spotify, d'autres Apple Music, ça dépend des cas. Puis il y a les habitudes aussi. Mais c'est sensiblement, les offres sont assez proches.
Ouais. Non, je pensais justement à Apple Music qui est arrivé un peu après les autres et puis qui a quand même pris une part de marché importante. Vous me direz, c'est Apple
qui est leader aux États-Unis. Ouais. En France, ils sont troisième. Mais effectivement, ils ont réussi à conquérir des utilisateurs, notamment des devices de chez Apple. syndicales qui se sont mises sur ce service.
Comment, alors là, je rappelle, vous êtes le président du SNEP, donc du syndicat de la musique, mais aussi président d'Universal Music France. Quelle est la rémunération, en fait?
Alors, ce sont des deals qui sont...
Justement, sur le streaming.
Ce sont des deals commerciaux qui sont des deals de gré à gré. Donc, ouais. Chaque acteur, soit une major comme celle que je représente, ou des acteurs indépendants, vont faire des contrats avec chaque plateforme, comme on le faisait avec des distributeurs physiques par le passé, ou encore aujourd'hui d'ailleurs.
Non, mais grosso modo, quoi, c'est quoi les ordres de grandeur?
En gros, 1 500 000 streams, pour faire simple, ça correspond à près un album. Voilà, c'est pour vous schématiser. Et c'est à peu près ça. On estime, après, on le fait évoluer parce que le marché continue d'évoluer, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près 1 500 000 streams, qui correspondent à peu près au coût d'un album.
Ouais. Et là-dessus, l'artiste, il touche combien?
Ça dépend de son contrat.
Ouais. C'est
exactement comme pour le physique, c'est-à-dire qu'il a des, il y a
ça
des contrats,
de combien,
il a un pourcentage. Ça va de 10% à 80%. Ça dépend des contrats qu'il a.
Ouais, d'accord, ok. Et est-ce que du coup il y a des disques que vous sortez directement en streaming et surtout pas du tout en physique?
On essaie d'éviter parce que nous on est le plus possible, on essaie de maintenir ce marché physique qui est très important et qui permet.
C'est prescripteur.
Et qui est prescripteur et puis c'est aussi ça reconnaît l'attachement qu'a un consommateur avec l'artiste directement puisqu'il va aller payer spécifiquement ce support. Donc et puis il y a des objets qui sont beaux, on en a parlé, le vinyle, etc. Donc nous on essaie de sortir à chaque fois qu'on sort un album, en tout cas on essaie de le sortir en digital et en physique.
Le vinyle, on en a dit un mot, le CD ça recule beaucoup,
ça a perdu, en tout cas le marché physique a perdu 10% en 2019.
Ouais, non mais le CD.
Le CD, oui, c'est le CD qui décroît, qui souffle le plus. Mais ça tient quand même. Et parce qu'il y a quand même des vrais succès sur des artistes phares.
Justement, quels sont, puisque vous avez fait un bilan ce matin, quels sont les artistes qui ont été les plus écoutés?
Alors, les plus écoutés, en tout cas les plus consommés, ouais. La numéro 1, je l'ai cité tout à l'heure, c'est la jeune Angèle, qui est pour son premier album qui va bientôt arriver vers 1 million d'albums, ce qui est absolument fantastique. Le deuxième, c'est un artiste de musique urbaine qui n'était pas son premier album, qui s'appelle Nekfeu, qui avait sorti un album sur lequel il y a un duo avec Vanessa Paradis, notamment. Ça montre à quel point la musique urbaine n'est pas juste pour des spécialistes, mais s'ouvre aussi sur le grand public. Et le troisième, c'est le magnifique album symphonique qui avait été fait avec les voix de Johnny Hallyday, qui s'appelle Johnny, qui était le troisième des ventes. Donc voilà, c'est ça le top 3 en tout cas de l'année 2019.
Est-ce que vous pouvez dire, très très varié, parce qu'entre Angèle et Johnny, c'est sûr qu'il y a, on est un peu dans des mondes différents. Justement, on avait le sentiment qu'on n'écoutait que du Johnny, du Eddie Mitchell, que des revivals. Et puis en fait, on s'est rendu compte, notamment avec les victoires de la musique, mais aussi avec le succès, les bilans que vous avez faits, qu'il y a une jeune génération, il y a presque la génération des quarantenaires qui a disparu, et que la jeune génération a pris tout d'un coup la relève, et notamment des femmes.
Plein. Il y a énormément de... Effectivement, et les victoires de la musique ont été assez révélatrices là-dessus.
Oui, c'était assez...
Parce qu'il y avait énormément de filles, entre Angèle, Clara Luciani, Pomme, Louise Sauvage et d'autres. Donc franchement, ça c'est formidable. Il y a une belle génération.
Il n'y a pas que Johnny, quoi.
Il n'y a pas que Johnny. Et c'est très varié, parce qu'on parle, encore une fois, beaucoup de certains genres qui seraient plus prisés par les jeunes et plus écoutés par les jeunes. Mais quand on voit Angèle, c'est de la pop, Clara Luciani, c'est de la chanson, donc il y a les Pommes aussi, et ça plaît. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour l'avenir de ce métier.
Ouais. Johnny, ça représente encore quoi aujourd'hui? Vous savez, c'est pas chez vous, hein.
Alors, Johnny, parce que là, j'ai parlé de l'album.
C'était chez vous, mais c'est pas chez vous. Donc,
la grande partie du catalogue est chez Universal. Ouais. Mais surtout, comme il y a eu cet album dont j'ai parlé qui est dans le top 3, c'est l'album symphonique, mais le catalogue de Johnny Hallyday a fait que Johnny Hallyday était l'artiste le plus consommé en France encore à nouveau en 2019.
Encore en 2019, Et il reste encore les vieux de la vieille?
Oui, mais en fait, le vieux de la vieille, comme vous dites, paradoxalement, sont le deuxième, les plus de 50 ans sont le deuxième bassin de consommateurs en streaming. Et ça continue de croître parce que c'est un usage qui se démocratise. Et aujourd'hui, ils sont très intéressants aussi parce qu'ils ont la capacité à pouvoir écouter des choses beaucoup plus diverses, qui vont de la musique classique à la pop, et évidemment à des patrimoines qu'on a cités, locaux et internationaux. Donc c'est très important pour l'avenir du patrimoine et du catalogue.
Lorsqu'on regarde les revenus, physiques et les revenus numérique, on voit que c'est pas tout à fait le même genre de musique qui est consommée. Je fais allusion bien sûr au rap. Le rap qui en physique ne marche pas très tellement, mais en revanche, on voit qu'en streaming, c'est vraiment, et ça a redonné des couleurs au rap.
Mais parce que le mode de répartition des revenus du streaming n'est pas le même que quand c'était à l'acte ou à l'achat, dans le physique. Donc c'est plus un titre est écouté, plus il prend part sur le streaming. Donc forcément, c'est les titres les plus écoutés qui sont souvent les titres écoutés par les plus jeunes, et notamment la musique urbaine, qui prennent la plus grosse part. Mais c'est en train d'évoluer. évoluer. C'est quelque chose qu'il faut qu'on étudie absolument, parce que c'est voilà, c'est on est très heureux que ce marché du ce mode du streaming permette au marché de repartir, mais évidemment avec la création du CNM notamment, on espère avoir la capacité de pouvoir faire des années, le CNM, le Centre national de la musique, qui vient d'être lancé par les pouvoirs publics, dirigé par Jean-Philippe Thiellet, qui va avoir la vertu d'être un organisme indépendant qui va pouvoir faire des vraies analyses sur l'évolution de ces marchés et éventuellement les modifications qu'on pourrait faire.
Mais ça veut dire que si on voit que c'est le rap et la musique urbaine, on le trouve sur le streaming, ça veut dire que des gens comme vous, pardon, mais vous dirigez une des principales majeures, ne vous prenez pas de risque, vous voulez pas sortir en physique du rap et de la musique urbaine.
Non, on sort Nekfeu est sorti en physique, tous nos artistes de rap sortent en physique.
D'accord.
Non, ce que vous avez cité, c'est que ça vend moins en proportion en physique que ça n'est consommé en streaming, mais pour autant, les vinyles d'artistes de musique urbaine cartonnent.
Lorsqu'on a ces chiffres qu'on vient de faire assez rapidement, Livinus, quels sont maintenant un peu les nouveaux enjeux, le nouveau business model d'une major comme Universal Music, mais comme les autres qui font partie de votre syndicat, hein.
Mais en fait, ça fait longtemps que, évidemment, pendant cette période où le marché a décru de manière assez dramatique, il a fallu chercher d'autres relais de croissance, d'autres revenus pour les artistes. Et donc, on a développé autour de ce qui est notre cœur de métier, hein, l'exploitation des masters, des services, des métiers qui sont l'association avec les marques, la synchronisation des œuvres dans les publicités ou au cinéma, le merchandising. Et tout ça, on a appris à travailler ces segments, et aujourd'hui les maisons de disques sont plus, on appelle encore maisons de disques d'ailleurs, sont plus ce qu'elles étaient il y a encore 15 ans ou 20 ans. Aujourd'hui il y a des nouveaux métiers qui sont créés qui permettent d'exploiter ou peut-être travailler avec les artistes pour exploiter leurs marques et aller chercher des revenus ailleurs.
Voilà, c'est ça, parce qu'on voit en fait ce qui rapporte le plus sur un artiste, c'est les tournées. C'est pour ça qu'il y a autant de tournées.
Ce qui rapporte le plus,
ça, non, je sais pas, je lisais ça à propos de Johnny, justement.
C'est ce qu'on écrit, mais il y a des artistes qui gagnent excellemment bien leur vie avec l'exploitation des masters. Après, effectivement,
les masters, ça, c'est le disque, hein, on va
c'est
dire.
Le disque, pardon, oui, les masters, oui, enfin les enregistrements, pardon. Oui, les enregistrements. Mais effectivement, les tournées, quand elles sont conséquentes, permettent à des artistes de très bien vivre. Effectivement, mais c'est très inégal en fonction des typologies d'artistes.
Oui. En même temps, ça peut rapporter très très gros, une tournée, non?
Ça peut rapporter très très gros. Encore faut-il faire beaucoup de dates.
Ouais. Et chez vous, vous le faites, parce que est-ce que les majors comme vous, est-ce que vous avez pris en main justement tout ce dispositif? Vous parliez du dispositif autour d'un musicien, parce que maintenant c'est un vrai dispositif.
Absolument. Hein, c'était pas notre métier premier.
C'était pas votre métier du tout.
On travaillait très bien avec plein de producteurs qui sont sur la place de Paris encore aujourd'hui. Ouais. Certains producteurs de disques se sont mis aussi à faire des tournées, des indépendants comme des majors. Aujourd'hui, Universal s'y est mis, en France en tout cas. Avec le concours aussi de services qui sont chez Vivendi, et on produit effectivement des tournées. On produit par exemple la tournée de Dadju, la tournée de Vita et Slimane aujourd'hui, ou de Clara Luciani, et entre autres.
Et alors à l'export, parce que je recevais le patron du bureau export qui nous expliquait que la musique française s'exportait bien. Vous-même, vous avez vos chiffres aussi ce matin. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une progression, que la langue française s'exporte et nos artistes s'exportent ou pas?
Ça s'exporte. Il y a encore du chemin, parce que franchement, ouais, il y a moyen, et surtout, parce qu'aujourd'hui, on se dit que c'est formidable, un titre qui est sur une plateforme de streaming, les plateformes sont mondiales, donc il est disponible partout.
Oui.
Après, c'est toute une histoire quand même d'aller défendre le projet pays par pays, dans les régions, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine accointance pour la langue française, même dans des pays qui sont pas francophones. On a des succès, on a des artistes, par exemple, en langue française, urbain ou pas, qui font les plus grands festivals aux États-Unis, comme Coachella, en Californie. Donc ça, il se passe des choses, et puis il y a parfois des surprises, des artistes qui tout d'un coup ont des succès en Amérique latine ou en Asie. Et puis ce marché se mondialisant, on pense qu'effectivement la langue anglaise, qui dominait évidemment ce marché depuis des décennies,
qui dominait,
non mais je dis qui dominait, oui, parce que effectivement depuis 2-3 ans on voit des succès latins notamment qui peuvent faire des succès mondiaux. L'Asie arrive, et puis moi je m'occupe aussi de l'Afrique, et je pense que, alors en langue française ou pas, les productions ou les artistes africains vont dans les années à venir aussi pouvoir avoir des succès mondiaux.
Et est-ce que c'est un marché pour les chanteurs français ou américains, l'Afrique?
Bien
aussi
sûr.
Est-ce que le streaming explose aussi?
Parce que là, c'est vraiment une... La notoriété, j'avais, pour la petite histoire, j'avais signé un artiste formidable qui s'appelle Stromae, qui n'a pas échappé il y a quelques années. Et quand il allait en Afrique, c'était absolument incroyable, la notoriété qu'il avait là-bas. Et aujourd'hui...
Il faut dire que son père était... Oui.
Non, mais bien sûr, mais il y a plein d'artistes français ou qui ont grandi ou qui sont nés en France et qui ont pour certains des origines sur l'Afrique de l'Ouest notamment ou de l'Afrique du Nord, qui quand ils vont là-bas, on s'aperçoit qu'ils ont une notoriété absolument incroyable. Alors pour l'instant, le marché est seulement émergent, mais il est fort probable que demain, dans un sens comme dans l'autre, des artistes africains qui vont pouvoir tout d'un coup avoir du succès dans le reste du monde et inversement.
Du coup, ça a des conséquences sur vous parce que donc toutes les majors vous retrouvez des couleurs, hein, donc on voit bien que l'avenir est plutôt rose devant vous. Donc quel est le principal obstacle peut-être?
Le principal obstacle,
ça y est, vous avez trouvé la poule aux œufs d'or.
C'est ce que je vous dis en filigrane, c'est qu'il faut faire attention. C'est un usage qui est quand même assez récent. L'évolution que ça peut prendre parfois des tournures qui peuvent nous échapper. Et aujourd'hui, évidemment, on a des catalogues magnifiques, on a des artistes qu'on produit, sur lesquels on investit, et dont on défend les carrières tous les ans, et c'est des gros risques qu'on prend. Mais il faut absolument qu'on soit pas dilué par d'autres usages. Vous voyez l'arrivée des podcasts, notamment sur les plateformes de streaming.
Ouais.
Il y a aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Qui est capable de produire à la chaîne et avec des machines de la musique qui pourrait ressembler à des choses qui seraient défendues par des artistes avec des investissements de producteurs que nous représentons. Donc ça, c'est quand même des choses qu'il va falloir surveiller pour voir à quel point les artistes qui incarnent vraiment les projets vont continuer à être bien rémunérés avec cet usage à l'avenir.
On peut imaginer un robot qui fait de la musique?
Mais c'est déjà le cas.
Ouais.
L'intelligence artificielle agrège des données
pour reproduire
des choses à la manière d'artistes. On n'a pas plus besoin d'artistes, la preuve. Mm. On est fan d'artistes parce que tout d'un coup ils incarnent, parce qu'ils vont sur scène, parce qu'ils représentent quelque chose, parce qu'ils ont un discours, et c'est ça qu'on défend.
Ouais. Du coup, ce qui se passe évidemment, c'est que les managers retrouvent le chemin des bénéfices, c'est très important. Et on a vu numéro 3 du secteur Warner Music, qui a donc son propriétaire a décidé de l'introduire en bourse. Et puis il y a vous, Universal Music, donc numéro 1 mondial, introduction en bourse en tous les cas. C'est pas pour tout de suite, mais c'est ce qu'a dit votre maison mère Vivendi. C'est vraiment lié au succès, notamment du streaming.
Écoutez, je peux pas vous en dire plus. Je peux que vous dire ce qui a été révélé dans l'annonce suite aux résultats 2019.
Vous étiez au courant, j'imagine, quand même, non ?
De surveillance.
Vous étiez pas au courant ?
Et il y a effectivement un projet d'entrée en bourse d'ici 2023 à suivre.
Oui, non, mais sans rentrer dans le détail, parce que j'imagine surtout qu'avec Vincent Bolloré, il ne faut pas parler trop. Mais c'est vraiment lié au succès du streaming qui ça se voit pour Warner Music, pour vous. Même vos résultats 2019 ont porté les résultats de Vivendi. Hein.
Lié.
Alors que ce n'était pas le cas avant.
Lié, je ne sais pas. Ce que je peux dire en parallèle, c'est vrai. Aujourd'hui, l'industrie mondiale de la musique est par la croissance et se mondialise. Donc il y a un potentiel qui est assez enthousiaste.
Et vous avez le Tencent, le chinois est rentré chez vous, chez Universal Music. Le marché de l'Asie, ça s'ouvre beaucoup à la musique française.
C'est un marché qui effectivement peut devenir demain un des marchés principaux mondialement.
Ça l'est pas encore.
Alors il y a une partie effectivement du public chinois qui est francophile, on s'en félicite, et qui sont tellement nombreux qu'effectivement il y a un potentiel pour les artistes français de pouvoir demain faire carrière là-bas. Et puis il y a évidemment plein d'artistes asiatiques, chinois notamment, qui vont émerger et qui vont pour certains avoir un succès mondial.
Est-ce que vous avez déjà, ou est-ce que cet accord Tencent, là je parle pour Universal Music, mais j'imagine c'est vrai pour les autres, que vous produisez? Vous ?
C'est-à-dire, pardon ?
Des artistes chinois.
On a une division en Chine qui signe et développe des artistes chinois.
Qui est important, qui est significatif.
C'est le début, mais évidemment, on prend les marques parce que c'est un marché qui va vraiment s'ouvrir.
Et à part Mireille Mathieu, quels sont les artistes français qui cartonnent en Chine, au Japon?
Qui cartonnent, je ne saurais pas vous dire.
Mais il y a plein d'artistes qui marchent.
Il y a des artistes qui font des tournées là-bas. Il y a des jeunes artistes aussi qui font des tournées là-bas. Mais on est vraiment qu'au début d'un pays dont le marché est à peine émergent.
Et essentiellement chinois. Ça représente combien de marchés chinois? Je n'ai pas la moindre idée.
Bah aujourd'hui, pour vous donner dans l'échelle des marchés, donc ouais. Le numéro 1 sont les États-Unis. Ensuite, c'est le Japon. Ensuite, ça dépend des années, mais c'est l'Allemagne et le Royaume-Uni. La France est 5e. Et aujourd'hui, la Chine est déjà 7e sur l'échiquier.
Oui, j'ai envie de dire seulement, parce que ça fait quand même, il y a beaucoup de Chinois.
J'entends bien, mais bon, ouais, le marché s'ouvre seulement maintenant.
Ouais. Vous voyez l'apparition de nouvelles plateformes de streaming chinoises, par exemple?
Ça pourrait. Ça aussi, c'est plutôt une chance qu'on a pour notre industrie, c'est que pour l'instant, le marché du streaming des plateformes est très concurrentiel, puisqu'il y a, on les a cités, Spotify, Deezer, Apple Music, plus Amazon et d'autres, et des Chinois qui peuvent émerger effectivement. Donc ça permet au moins de pouvoir ne pas être dans un système qui soit trop monopolistique, et tant mieux.
Oui, le marché de la Russie un mot, parce qu'on n'a pas du tout l'impression qu'il y a, les artistes français qui cartonnent là-bas, mais on, pour le coup,
il y a un marché du streaming, ça se développe.
On voit quelque chose. Oui, c'est pas intéressant, parce que c'est quand même 150 millions de. Enfin, c'est pas les Chinois, mais enfin, c'est quand même.
Non, bien sûr, mais ça se développe. Il y a un marché du streaming, il y a encore un marché du support, il y a des tournées, effectivement. On en parle beaucoup parce que il y a des artistes francophones qui parfois ont des Patricia Cass, évidemment, qui ont eu des succès fulgurants là-bas. Il y a toujours une certaine population.
Assez
francophile et fan de ces artistes-là. Tant mieux, ça ouvre des perspectives pour l'avenir.
Bon, justement, 2020 se présente aussi bien que 2019.
Ça part bien.
Merci beaucoup, Olivier Nus, d'avoir été avec nous. Patron d'Universal Music et France, et puis le patron, bien sûr, du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique de la musique. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain matin, 8h15. Je recevrai Stanislas Guérini, La République en marche. Et puis nous, on se retrouve demain, 12h-13h, pour une nouvelle orage. Bonne journée.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Ça cartonne, c'est la grande révolution, vous le savez, de la musique grâce au streaming. Olivier Nus, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron du SNEP, alors le syndicat national, bref, le syndicat de la musique, et puis le patron d'Universal Music pour la France. Très bon chiffre que vous avez publié ce matin, avec évidemment quelques différences ici ou là, on verra ça. Mais pour l'instant, rappel des titres avec Audrey Maubert et Dommage, je n'ai pas en musique.
Pas de rebond espéré, hein, pas le rebond espéré du moins. L'inquiétude quant à l'impact économique du coronavirus continue de plomber les marchés actions. On l'a vu sur les places asiatiques ce matin. Le CAC 40 reste dans le rouge, moins 0,73% à 5749 points. Les compartiments très exposés à la Chine sont encore sanctionnés, notamment du côté des matières premières. Plus de 80 000 cas désormais recensés dans le monde. Une situation très grave, reconnaît Séoul, où le nombre de cas a bondi. En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a reconnu un dysfonctionnement. Les ministres de la Santé européens, notamment français, sont attendus cet après-midi à Rome. Le redressement des finances publiques est aujourd'hui quasiment à l'arrêt, juge la Cour des comptes dans son rapport annuel. Elle appelle une fois de plus à ne plus retarder les efforts pour assainir les finances de l'État. Outre cet appel traditionnel, la Cour des comptes étrille l'école polytechnique. Une situation financière préoccupante et des insuffisances dans sa gestion, en particulier, dit-elle, une tutelle lointaine du ministère des Armées. C'était attendu, les 27 adoptent le mandat de négociation avec Londres. Le Royaume-Uni doit entamer des négociations avec Bruxelles le mois prochain pour parvenir à un accord commercial avant le 31 décembre prochain. La première commande pour Boeing depuis le début de l'année, la compagnie aérienne japonaise ANA va acheter 15 787 Dreamliner supplémentaires pour 5 milliards de dollars. Renault lance son offre d'autopartage, le service Zity, dès le mois prochain à Paris en partenariat avec le groupe espagnol Ferrovial. 500 véhicules électriques déployés en remplacement de l'offre actuelle Moovin, qui c'était en collaboration avec le loueur ADA. Expedia supprime 3000 emplois, 12% de ses effectifs mondiaux environ. Une année 2019 décevante, a reconnu le voyagiste américain. Après un bénéfice net en baisse au dernier trimestre, Expedia vise 300 à 500 millions de dollars. Et puis, le marché français de la musique poursuit sur sa lancée, une croissance de 5,4% en 2019, aidé par le streaming. Quatrième année consécutive de croissance, selon le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, dont le président Olivier Nus est votre invité, Edwige.
Merci beaucoup, Audrey. Vous l'avez dit, on parle de musique. Et puis, bon, ça fait plutôt du bien. La musique se porte bien, notamment le vinyle. Ça, on le savait, mais pour combien de temps? Allez, à tout de suite.